Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Vendredi, je vous dis pas, bonjour. Aujourd'hui, on reprend le cours de l'interview commencée hier en compagnie de Bruno Nourry, maire de Lille-Dieu. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et de Patrice Bernard, élu à l'environnement et l'urbanisme. Bonjour.
Bonjour.
Dans un court instant, on vous parlera de logements et des projets pour la commune de Lille-Dieu. Mais pour commencer cette deuxième partie, on vous parle de construction. La construction sur l'île-Dieu, point de vue des particuliers et des HLM avec Vendée Vita, se porte-t-elle bien?
Donc, déjà d'une part,
au nombre de
dossiers déposés, on ne ressent pas une baisse. On a toujours autant de dossiers. Peut-être des surfaces moins importantes, hein, mais on a énormément de dossiers. Donc ça, c'est
plutôt positif d'ailleurs.
Oui, mais comme le disent certains professionnels du bâtiment, on a des demandes, mais ça ne débouche pas. Donc on voit que ce sont assez réticents, qu'au niveau crédit, il y a des blocages tout de même.
C'est par rapport aux banques, surtout.
Oui, et puis certains ils prennent peur ou ils préfèrent attendre à un moment donné. Donc, ils vont déposer un permis. Ils savent qu'un permis, c'est valable 3 ans, enfin 2 ans, et vous pouvez le proroger d'une année. Et donc, ils cessent le temps, effectivement, avant de construire la dite maison ou l'extension.
Ils ont peut-être peur par rapport aussi aux nouvelles normes 2012, par rapport au coût de la construction et normes sismiques.
C'est certain, ça peut... Disons que les normes... Si vous parlez du sismique, c'est applicable depuis plus d'1 an sur l'île-Dieu. L'île-Dieu était au niveau 0 il y a 3-4 ans ou 5 ans de cela. On est au niveau 3. Après, vous allez me dire qu'est-ce qu'est le niveau 3. On est sur des niveaux entre 0 et 5. Donc, le fait d'appliquer les normes anti-sismiques sur l'île-Dieu, ça génère des coûts à peu près de 15% en plus de la construction. Donc, ce qui est très important. Mais bon, comme vous l'avez cité, il y a les normes antisismiques, parce que là, effectivement, après, on a des études thermiques, tout ça. Et la nouvelle réglementation qu'on appelle RT 2012, celle-ci, elle va engendrer des coûts supplémentaires. Bien sûr, un investissement beaucoup plus important. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que cet investissement d'aujourd'hui ne sera pas l'investissement de demain. Donc, il y aura des charges de fonctionnement beaucoup moins importantes. Tout ce qui est RT 2012... Je suis pas un professionnel du bâtiment, je n'ai pas fait la formation, je le dis haut et fort. Ceci dit, ça va obliger les futurs constructeurs à mieux isoler leur maison, mieux orienter la maison.
C'est obligatoire, de toute façon.
Obligatoire.
Depuis le 1er janvier.
Obligation d'avoir un sixième d'ouverture sur les façades, c'est l'information qu'on a, et je dis bien.
17% de baie vitrée, tout de même.
Ouais.
Mais sur les lieux, c'est aussi un problème, non?
Non, je vais en discuter après. Donc, une isolation plus importante. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, c'est des hauteurs de bâtiments qui devront être revues un peu pour avoir des hauteurs d'isolation sous plafond beaucoup plus importantes. Donc, tout ça, c'est des choses que nous, on prend en considération. Et comme vous le savez, on est en train de travailler sur un projet d'IPLU depuis déjà 3 ans.
On va en revenir tout à l'heure, oui.
Ouais, et on en reparlera. Et donc, on a tenu compte, effectivement, de tout ce qui était lié aux ouvertures, hauteurs de construction et tout ça, pour être en adéquation avec les nouvelles normes. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette nouvelle norme, il ne faut pas le voir comme un frein, ni comme une révolution, plutôt comme une évolution. Nos professionnels seront se former comme il faut pour apporter tous les conseils nécessaires aux futurs constructeurs. Et que c'est très important d'avoir des maisons qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en gaspillent, dans le sens que les maisons qui ont été construites dans les années 80, ils étaient super bien isolés, enfin mieux isolés. Les années 90, il y a eu des améliorations et les maisons de demain, effectivement, elles consommeront beaucoup moins d'énergie et ça sera toujours mieux que de construire en permanence des centrales nucléaires.
Il y a déjà eu d'ailleurs des ateliers avec l'espace Info-Énergie de la Roche-sur-Yon par rapport à cette RT 2012, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers qui veulent construire en autoconstruction.
Oui, donc ça c'était, comme le disait Bruno précédemment, c'est dans le cadre de IE 2030, on a aussi une volonté d'informer au mieux tous nos administrés. Et ça effectivement, on a fait déjà des réunions là-dessus, il a commencé à y avoir des ateliers, donc des ateliers avec à la fois des futurs accédants à la propriété, mais également avec des architectes. Parce que c'est ces gens très compétents, ils sont venus expliquer comment orienter la maison, comment l'isoler, toutes les nouvelles technologies.
Est-ce que ça fait peur aux professionnels ou aux particuliers?
Moi, je dirais ça ne fait pas peur aux professionnels parce qu'ils sauront à un moment donné se former comme il faut pour conseiller les particuliers. Disons que les particuliers, je pense qu'ils vont, c'est dans l'air du temps, ils vont s'informer au mieux pour réaliser leur construction.
Mais c'est vrai que ça va pas être simple. C'est pour ça qu'on avait souhaité mettre en place ces ateliers pour les aider dans leur projet.
Y aura-t-il de nouveaux ateliers avec l'espace Info Énergie de La Roche-sur-Yon Est-ce que c'est déjà daté? Non.
Ben l'idée c'est de les inscrire dans le temps effectivement. Donc bon c'est bien hein, quelqu'un qui a un projet de construction un an après c'est un autre etc. Donc on va continuer à suivre dans le temps pour que apporter le même service un peu à tout le monde.
Je voudrais faire une remarque concernant tous ces ateliers. Ce qui est très important, il ne faut pas attendre que le permis soit déposé justement pour s'informer.
Donc, vaut mieux s'informer en amont.
Voilà, c'est-à-dire l'idéal, c'est que vous avez des idées de construction et vous vous orientez vers ces gens-là. Donc vous allez au pôle économique et c'est Marie Brossier qui s'occupe de ce dossier-là. Donc c'est cette personne qu'il faut rencontrer, qui sera aiguillée tous les futurs constructeurs hein, ou tous les futurs projets, effectivement, vers ces gens-là qui sont très compétents et qui nous apportent beaucoup de choses qu'on ignore.
Les réponses aux questions.
Ouais, complètement. Même s'il faut le dire, pour avoir suivi un peu leur débat, il n'y a pas une solution miracle. Il y a plusieurs solutions.
Il y a plusieurs solutions, ouais. Et on l'a bien compris.
Hein, ça, c'est clair.
Et d'ailleurs, on parle de logement sur les lieux. Y a-t-il des programmes en location ou en HLM? J'en passe des meilleurs.
Oh oui, il y a toujours des programmes. Un programme Pousse-Lot, j'ai envie de dire. Mais là, aujourd'hui, bon, chacun a pu voir qu'à Kerpissot, la SAC allait sortir de terre. Donc là,
Il est en train de sortir de terre,
effectivement. Donc là, il y a un certain nombre de logements qui vont être réalisés. 40.
On est à 50 logements.
Ouais, 50 logements.
Un peu moins 40.
On est parti sur 50, un tiers.
Oui.
Alors oui, après. Un tiers. Qu'est-ce que vous appelez un tiers?
C'est un tiers de logements en location.
Mm-hmm.
Un tiers en accession à la propriété et un tiers de lots libres.
De lots libres.
Ouais. Les lots libres sont un peu plus chers, ça permet de faire les lots en accession un peu moins chers et d'équilibrer un petit peu l'ensemble, quoi. Bon, c'est ce qui avait toujours été prévu depuis le départ. Hein.
Y a-t-il d'autres projets à venir sur les lieux?
Sur les ZAC, il y a les autres, hein, qui nous donnent une certaine visibilité dans le temps, hein, aux quinzaines d'années peut-être, en sachant qu'on a aussi, d'autres projets connexes, des petits projets de logement. Bon, par exemple, à Saint-Sauveur, on n'a qu'une parcelle derrière le grenier seigneurial, et puis on est en train d'acquérir celle de l'hôpital qui est jouxte. Donc ça permettra de refaire du logement dans le centre-bourg de Saint-Sauveur. On a un autre terrain aussi derrière Cadouer, au Grand Pas, où là aussi, on va faire un petit lotissement, parce que la parcelle n'est pas non plus très, très grande, mais ça permettra aussi de loger des gens. Disons qu'on a toujours quelques petits projets connexes à la grosse cavalerie, j'ai envie de dire, que sont les actes.
Et ce qu'il faut, je vais faire une remarque concernant toutes ces entités. Notre volonté, en dehors des actes, on avait fait le choix d'achat d'énormément de parcelles. Effectivement, c'est de lancer des opérations de 8 à 10 logements et d'avoir la mixité, c'est-à-dire à la fois du locatif et des lots libres.
Et des lots libres,
voilà. Ouais. C'est notre politique. Mmh. Hein, c'est ce qu'on affiche, c'est ce qu'on souhaite, plutôt d'avoir que du locatif. Hein, donc, on a de la mixité et peut-être que, comme le dit Bruno, dans les 2 ans qui viennent, c'est l'orientation qu'on souhaite prendre avec Adware et dans d'autres endroits, comme sur la route à côté du Moulin, sur la route de Saint-Sauveur. Hein, au Moulin Mingour. Donc là, on a aussi une parcelle qu'on a fait l'acquisition il y a 4 ans. Donc, c'est pas improbable qu'un projet voit le jour à court terme.
Est-ce que le parc de logement est suffisant actuellement sur les lieux ou...
Le parc de logement est suffisant si on regarde le nombre d'habitations et le nombre d'habitants sur l'île. La réponse est oui, mais...
Mais il y a beaucoup de maisons qui sont fermées durant l'hiver. C'est ça le problème.
Non, Dit autrement, bon, l'île-Dieu est très construite de par ses résidences secondaires. La pression foncière induite fait que il est parfois difficile de se loger. Hein. Bon, nous, la réponse, c'est de continuer à faire du logement locatif ou des
formules d'accession à la propriété.
La propriété, c'est ça, de permettre aux gens d'habiter. Et c'est même un des points clés de notre PLU quand on a fait notre projet d'aménagement développement durable, c'était de déterminer combien il fallait qu'on puisse sortir de logements par an, etc. Quoi.
Donc il en faut combien par an?
Je sais plus combien on avait mis, mais bon, la difficulté, c'est que jusqu'à récemment, les gens construisaient sur des terrains de famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas et la collectivité de plus en plus supplée à ça. Donc c'est vrai qu'on avait acheté un certain nombre de parcelles en amont, mais ça devient compliqué pour les gens. Nous faire en sorte aussi que quand on vend du terrain, on puisse le vendre à des prix qui soient abordables,
oui,
pour les gens.
Donc, pour les futurs excédents. Oui.
C'est ça, ouais. Donc on se détermine des objectifs. On essaye de les tenir. Hein. Forcément, c'est fait pour ça. Mais la difficulté, ouais, c'est ça, c'est cette pression foncière. Et puis bon, après, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Bon, derrière, par exemple, quand on va faire du logement locatif, c'est vraiment des habitats qui va les faire, qui les fait selon ses propres règles ou selon son propre rythme. Donc, on n'a pas toujours la main sur les leviers. Néanmoins, les projets continuent. L'année dernière, on avait inauguré les logements locatifs au Bébé Gris, à la Charroux, et bon, il y a d'autres projets qui continuent de se mettre en place.
Ce que je voudrais dire aussi en termes de logement, l'orientation qu'on souhaite prendre dans le futur PLU, ce qu'on appelle les OAP, hein, ce sont les 1U, hein, les zones d'aménagement, où ce qu'on a déterminé...
OAP.
Ouais.
Je vous arrête.
Orientation d'aménagement de...
programmé.
Programmé. Parce que là... dans ce cadre-là, on a déterminé à peu près 20 logements à l'hectare. C'est la moyenne, de toute façon, dite nationale. Donc, on souhaite effectivement... Donc, à partir de là, on va permettre l'ouverture à l'urbanisation, mais dans une cohérence, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait un seul qui bloque tout. Donc les tramvières seront mises en place, tout est avec un nombre de logements, et dès que le PLU, on croise les doigts, sera validé, on espère que ces opérations pourront démarrer.
J'ai envie de vous demander, le PLU sera validé quand? Quelles sont encore les grandes phases à venir?
Les grandes phases à venir, d'abord c'est le passage en commission des sites, hein. Donc ça va pas être forcément une partie de plaisir.
On a la date, cette commission?
Bientôt. Elle va être bientôt, non mais c'est courant janvier.
C'est courant janvier, d'accord.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'ici 15 jours on passe.
Ouais.
Un peu de stress?
Pas du tout.
Non, mais on va présenter notre projet. Bon, c'est certain que... qui a la pression des services de l'État sur un certain nombre de points, donc on s'en expliquera avec eux. Ensuite, il y aura une consultation du public, hein, consultation aussi des personnes publiques associées, hein, que sont les différents organismes d'État ou consulaires qui sont amenés à donner un avis. Donc ça prend 3 mois. Et on leur laisse 3 mois pour répondre. Ensuite, il y aura l'enquête publique. Le projet présenté à l'enquête publique. L'enquête publique, on le souhaite la
mettre en place à partir de quand?
Début juin jusqu'à mi-juillet.
Ouais.
Début juin jusqu'à mi-juillet.
Ou mi-juin jusqu'à fin juillet.
Ouais, on va faire 1 mois et demi d'enquête publique, là où on nous oblige normalement à faire 30 jours. Je pense que c'est important.
Et là, les gens pourront s'exprimer par rapport à ce PLU?
Oui, bien sûr. Oui.
D'ailleurs, ils peuvent toujours s'exprimer.
On leur demande d'écrire, vous écrivez. C'est pas la peine de demander des rendez-vous au maire pour ça. C'est par écrit que ça se fait. Donc, toutes les remarques, etc., sont faites par écrit. Donc, faut pas hésiter à écrire pour défendre son point de vue ou faire entendre des choses qui auraient pu aussi nous échapper. Et donc, suite à l'enquête publique, après, nous, il y aura l'adoption définitive du projet, donc à l'automne, quoi.
Donc, à l'automne, normalement, le nouveau prélude devrait être en place.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Normalement, on dit bien normalement, parce qu'il va toujours avoir des...
Oui, si. Bon, il pourra peut-être prendre encore un petit peu de retard. Bon, on arrive quand même dans la dernière...
Dans la phase finale, on peut dire ça comme ça?
Oui, c'est ça. Donc on...
Patrice n'est pas d'accord par rapport à la phase finale.
Il y a encore beaucoup de travail. Non, mais faut savoir que le PLU a quand même demandé énormément de travail. Hein. C'est énormément de réunions, c'est aller voir sur le terrain, c'est des remontées avec le bureau d'études, enfin différents bureaux d'études, que ce soit en urbanisme, en environnement, Il fallait déterminer les zones humides, recenser les cours d'eau, etc., etc. Donc c'était quand même un gros travail de fond réalisé depuis
3 ans.
Ouais, bientôt 4. Bon là, on se dit effectivement dans 7 à 8 mois, il sera adopté. Donc on est quand même en phase finale, mais ça va demander encore beaucoup de travail. Et c'est vrai que le travail qu'on développe là, ben on met pas notre énergie ailleurs et des fois c'est un peu problématique. On aurait préféré s'en tenir au PLU 2007.
Est-ce que ce que beaucoup de gens justement n'ont pas compris, parce que l'engagement quand on s'était tenu, c'est de dire on fait un copier-coller sur le précédent PLU.
On en avait déjà parlé.
On a les mêmes élus, hein, donc ils se disent comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait la même chose. Ben oui, mais depuis il y a des jurisprudences, depuis la loi Grenelle 1, Grenelle 2, et la loi littorale a encore évolué, donc on est obligé de
tout évolue,
donc on est obligé de prendre tout ça en considération. Il y a la notion de capacité d'accueil qui était une notion qui a fait capoter aussi différents PLU. Donc on est attentif à tout cela. On attend, effectivement, on va passer en commission des sites en janvier. À partir de là, comme le dit Bruno, il y a 3 mois où ce que les services de l'État et tout ce que les chambres consulaires et autres vont pouvoir travailler sur le dossier. Au printemps, on a notre enquête publique. À partir de là, ils ont 1 mois et demi pour que les gens ils puissent s'exprimer.
D'accord.
Nous, après, on doit travailler en fonction de toutes les demandes et on se laisse le temps de faire. Voilà. Et après, on souhaite effectivement que notre document soit posable à partir de septembre-octobre.
D'ailleurs, par rapport à ce nouveau PLU, il y a les panneaux d'information qui sont toujours visibles à la salle Louis Sport.
Oui, alors donc ce sont bien des projets. Hein. Donc là, on a remis des panneaux supplémentaires. Hein. On a remis des panneaux supplémentaires donc à la salle Louis Sport. C'est consultable sur le site internet. Donc j'invite aussi tous nos administrés à consulter le site de la mairie pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc on a souvent des remarques comme quoi que au niveau communication on pêche un peu, mais je pense qu'il faut aussi prendre l'initiative de prendre son ordinateur puis regarder un peu les infos qui sont quand même mises assez régulièrement.
Bruno Nourry, maire de Lille-Dieu, et Patrice Bernard, élu à la commission environnement et urbanisme, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Ouais, moi je pense qu'on a parlé un peu de choses et d'autres. Donc quand on parle d'aménagement en zone naturelle et tout ça, donc effectivement on a parlé vieux château, mais on va continuer dans notre programme 2013 à protéger notre île qui nous est si chère. Voilà, on va créer des parkings, on va créer un parking aussi supplémentaire à la chapelle de la Meule. On va aussi aménager le parking de la Pointe du Blu. On va continuer à l'aménager. Et puis aussi, on souhaite protéger davantage nos chemins, même si ça crée quelques tensions. Vous avez vu dernièrement où il y avait des chemins où il y avait certains piquets, hein, piquets pour que, effectivement, éviter le transit de certains véhicules qui détériorent tous ces chemins qui sont dédiés exclusivement, dans un autre sens, aux vélos et aux pédestres. Ceci dit, s'il y a des propriétaires de terrain qui souhaitent y aller pour couper du bois ou cultiver quoi que ce soit, ils peuvent se rendre au service environnement, on leur remettra des clés et ça se fait en toute simplicité. Donc ça,
c'était bien de le préciser.
Voilà. Et donc des projets, effectivement, on pourrait en parler longtemps parce que effectivement, on pourrait parler aménagement de voirie, parce qu'on a un problème de voirie, assainissement aussi, que dans notre objectif 2013, c'est faire l'assainissement de tout ce qui correspond à Kerchevino. On a aussi une part réhabilitation à proximité des Sicardières et on continue aussi à enfouir nos réseaux et voilà.
On peut dire plein de projets.
Énormément.
Pour cette année 2013.
On pourra en parler longtemps, mais je vous invite à lire le bulletin municipal.
Qui est sorti dernièrement,
parce que vous avez toutes les informations nécessaires.
Ben voilà, Patrice, je crois que t'as tout dit pour terminer. Effectivement, enfin, on vous renvoie au bulletin municipal qui fait le point un petit peu sur notre action passée et puis les
futurs projets de l'année 2013.
Voilà. Donc, comme je l'ai rappelé, la contrainte aujourd'hui, elle est si budgétaire parce que bon, on voit bien ce qui se passe au niveau de l'État. On nous supprime des dotations, on resserre un peu plus les dotations. Donc, nous, notre souhait, c'est de pas relever l'impôt. Donc, faut qu'on fasse avec moins. Donc, nous aussi, faut qu'on fasse des économies. Sur nos projets, même si on vote un budget, notamment en investissement, c'est pas pour autant qu'on trouvera les crédits bancaires en face. Donc il faut pouvoir aller chercher ces crédits bancaires. Donc la gestion financière aujourd'hui se complexifie et c'est pas simple. Bon, même si par ailleurs, bon, on a eu une petite victoire. Je vais en dire deux mots, c'est que depuis deux ans maintenant, on travaille. Enfin, on avait missionné via les îles du Ponant. Moi, ça me tenait à cœur une étude sur les dotations de l'État vers les communes insulaires. Nous, avec en toile de fond, se dire que finalement, c'est un euro qui est donné par l'État à l'île-Dieu, c'est pas un euro, c'est pas le même euro que sur le continent, parce que nous, tout coûte plus cher. Donc, pour être juste.
On pense notamment à l'essence.
Oui, enfin, l'essence.
Le coût du transport, oui, le coût des marchandises.
Oui, le transport, hein. Tout. Mais, non, quand on investit dans une école, c'est 1 million d'euros de plus à l'île-Dieu que sur le continent.
Faut le savoir.
Il faut le savoir. Ouais. Et puis, on n'a pas forcément plus d'argent que les autres pour faire
cette école, par exemple.
C'est ça, c'est l'assainissement. Enfin, c'est tous les travaux que réalise la mairie. Donc, cette étude, elle avait montré effectivement qu'on était plutôt moins riche que les autres et qu'on touchait plutôt moins. Mais pour autant, derrière, il faut savoir sur quel levier actionner, convaincre des parlementaires, les gens de l'État, etc., pour que la loi des finances soit amendée. Donc l'année dernière, on avait réussi à faire en sorte que notre kilométrage de voirie soit multiplié pour percevoir un peu plus de dotation, parce que c'est sur des critères très basiques, kilométrage de voirie, la superficie, etc. Il n'y a pas de critère île, qui serait illusoire d'en avoir un. Donc il faut qu'on joue avec les critères existants, ce que fait très bien la montagne. Mais bon, la montagne, c'est un quart des communes de France, enfin c'est quelque chose d'énorme. Donc eux, ils ont su se faire entendre depuis très longtemps. Mais sur la prise en compte du kilométrage de voirie, eux, ils avaient un coefficient multiplicateur aussi. Bon, à juste titre, hein, parce que c'est délassé, etc.
C'est pareil, ouais, c'est le
même. Pas tout à fait. Enfin, c'est pas
enfin,
que ça
si,
leur coûte
dans
plus
le
cher,
dans
c'est
le même,
plus long,
ouais.
Quoi. Oui. Et chez nous, c'est pas que c'est plus long, c'est que ça nous coûte plus cher. Bon, ça avait été acté l'année dernière. Ils avaient rejeté un certain nombre d'autres amendements, donc on va revenir à la charge avec ça.
Quel amendement?
Bah, c'est des amendements sur la loi des finances. C'est des je vais pas rentrer dans le détail, c'est des coefficients de correction, etc. Pour
ah oui, c'est complètement complexe.
C'est assez complexe.
C'est assez complexe.
Ouais. Mais néanmoins, il y a justement une nouvelle disposition qui s'appelle le fonds de péréquation des intercommunalités. En clair, on prend aux communes pour redonner aux intercos. Sauf que l'île-Dieu n'étant pas dans une interco, on pique à l'île-Dieu pour refiler à des intercos continentales. Et ça, en 2012, ça a coûté 30 000 euros à la commune. 2013, c'était prévu 60 000. Pour finir, à près de 600 000 euros en 2016. C'est-à-dire que l'État prend dans les communes pour donner aux intercos, pour favoriser les intercos.
Qu'est-ce que vous appelez des intercos?
Les intercommunalités.
Voilà, d'accord.
Ouais, okay. Ouais, les intercommunalités. Ouais. Ouais, ouais.
Autrement.
Et donc, dans l'idée, si on était dans une intercommunalité, qu'on prenne à la commune pour redonner à l'intercommunalité, finalement, c'est neutre.
Oui, voilà. On peut dire que c'est une opération blanche.
C'est ça, ouais.
Mais dans
on n'est pas dans une intercommunalité. Donc, en fait, il y avait deux communes contributrices dans les communes insulaires. C'était l'île-Dieu et Ouessant. Et donc on a présenté un amendement. Bon, il a fallu aller rencontrer les rapporteurs du budget, etc., etc.
Pourquoi pas faire une intercommunalité avec Ouessant, par exemple?
Bah,
les autres îles du Finistère.
Ça n'aurait pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Non, parce que l'intercommunalité, c'est pour mutualiser. Bon, aujourd'hui, on est dans les îles du Ponant où on est, on a des réflexions communes, etc. Mais on partagera pas non plus nos salles de sport avec Ouessant, quoi. Enfin,
les trajets sont trop longs.
Ouais. Non, mais c'est pour exemple, ouais, c'était pas cohérent. On y a pensé à un moment donné. Hein. Mais l'État a acté le fait que les lieux pouvaient, enfin, que les îles dotées d'une seule commune puissent rester en dehors des intercommunalités. Donc ça, on avait réussi à avoir un gain de cause en début d'année dernière, en fait. Donc là, le second étage de la fusée, c'était de dire, bon, maintenant qu'on n'est pas obligé de se mettre en interco, on va pas non plus payer pour les interco. Et donc ça, ça a été acté fin décembre, là.
Fin décembre 2012?
Ouais, à l'Assemblée nationale. Et donc, on échappe à cette ponction de l'État qui aurait pu, à terme, coûter très cher à l'Île-Dieu, quoi.
Pour 2013, c'était combien, on le rappelle?
Bah, c'était 60 000, et puis très vite, ça a monté à 200 000, pour finir en 2016 à 600 000 euros. Donc
c'est mieux que ça reste
à la commune. Bon, ça veut dire qu'il faut être vigilant, de comprendre ces mécanismes de dotation pour pouvoir proposer des solutions alternatives, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un tas de critères, de choses, et en face, au niveau de l'État, on a affaire à des spécialistes, donc c'est pour ça qu'au sein des îles du Ponant, on avait missionné cette étude pour être suivi par un spécialiste aussi, sinon on s'y perd un petit peu.
Ça sera le mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour de la question et des questions, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter avant de se dire au
revoir. Non, juste réitérer nos voeux au nom de la municipalité, à l'ensemble de la population, que 2013 soit une année propice à tous les projets et surtout une année de bonheur et de santé.
Ça sera le mot de la fin. Merci Patrice Bernard, élu à la commission environnement et urbanisme. À très bientôt.
Merci, à bientôt et bonne année encore et bonne santé.
Et merci Bruno Nourry, maire de l'Île-Dieu. À très bientôt sur l'antenne de Neptune FM.
Oui, merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. On se retrouve dès lundi. Et comme chaque lundi, ça sera spécial musique avec les sorties CD en compagnie de Philippe. Et on retrouvera en interview Nazim à lundi. Bon week-end. Au revoir.
Je vous dis pas. Votre magazine d'information locale.